Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Linda Bortoletto, là on est quelque part sur un festival dans les Alpes, le Grand Bivouac. Le Grand Bivouac à Albertville, donc face à nous, le Salon du Livre, des projections pendant plusieurs jours. Et c'est un endroit parfait pour rencontrer des écrivains, des photographes, des réalisateurs, des aventuriers, des aventurières, en lien avec le thème du voyage. Donc l'idée c'est de prendre le temps de te rencontrer, savoir un peu qui tu es, ce que tu fais ici. Mais avant, une question que j'aime bien poser, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Pour moi, le voyage, c'est avant tout une façon de se rencontrer. Et je pense qu'il n'y a que le voyage qui permet d'aller autant en profondeur par rapport à soi. Parce que le voyage, c'est rencontrer la diversité du monde, les cultures, d'autres langages, d'autres... du corps également, d'autres façons de voir le monde. Et en fait, ça devient... chaque personne qu'on peut rencontrer, chaque paysage différent, ça permet de rencontrer une nouvelle part de soi. C'est comme d'infinis miroirs. Et c'est pour ça que je pense que seul le voyage peut apporter cette richesse, cette profondeur par rapport à soi, cette rencontre avec soi.
Toi, ça a commencé quand ? Parle-moi de ton premier voyage. À quel moment tu as su que tu allais devenir voyageuse ? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta famille, existait déjà, était présent ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as révélé par toi-même ?
Déjà, je suis née d'un voyage parce que mon papa, d'origine française, est allé chercher ma maman en Indonésie. En fait, ils se sont rencontrés là-bas. Il a ramené en France. Je suis dans Picardie, c'est très exotique. Mais du coup, moi, j'ai baigné dans ce milieu du voyage. Mon père lui-même était pilote, donc grand voyageur. Et puis, c'était une époque où il y avait beaucoup de liberté. Donc, il travaillait en Afrique, il travaillait en Asie. Donc j'ai baigné dans cette ambiance. Et puis, ma mère, de toute façon, venant d'Indonésie, par exemple, concrètement, à la maison, on mangeait d'un côté du bœuf bourguignon et de l'autre du nasi goreng, quoi. Donc, il y avait le voyage aussi dans l'assiette, quoi. Et donc, j'ai toujours eu envie de voyager. Ça a vraiment été... quelque chose de permanent en moi, sauf que quand j'étais au lycée, métier voyageur, voyageuse, ça n'existe pas. Et je suis rentrée dans l'armée pour l'aventure, parce que j'avais ce côté, voilà, je voulais être Indiana Jones, l'aventure. Mon père, ayant fait l'armée, bon, il y a une sorte de projection. Et donc pendant 10 ans, je me suis perdue dans cette carrière militaire. Et comment j'ai retrouvé ce goût, cette envie, ce désir de voyager à part entière, c'est justement la mort de mon père. J'avais 28 ans et là je me rends compte que ma vie, mes rêves, je dois les réaliser maintenant et pas demain. Et donc ça m'a pris 2 ans d'introspection où finalement je décide de démissionner de ma carrière militaire. J'étais mariée, je divorce et je commence à partir en me disant, au départ je pars juste pour un voyage, je pars en Sibérie pour vivre avec des nomades éleveurs de rennes et ensuite en Alaska. Je m'étais dit je vais partir juste pour quelques mois, donc j'étais partie 5 mois et je vais revenir et je vais reprendre un boulot classique entre guillemets. Et finalement cette expérience était tellement riche, c'était une expérience initiatique où je me suis rendu compte que c'était plus qu'un voyage, c'était une nouvelle vie, une renaissance. Et en fait du coup j'ai poursuivi et ça fait 10 ans que ça dure.
Et là, tu as écrit ton premier bouquin, je crois, ce retour de voyage.
Oui, exactement. J'ai écrit mon livre. Alors, ça m'a pris un peu de temps parce que le temps de digérer toute l'expérience vécue, je crois que mon premier livre est sorti 3 ans ou 4 ans plus tard. Mais voilà, ça m'a permis d'écrire, en fait, plus qu'un récit de voyage, c'est le récit de mon changement de vie, ma vie d'avant, ma vie d'après, avec le point de rupture qui est la mort de mon père. Puis voilà, ce voyage au Kamchatka avec les nomades de tradition chamanique et en Alaska.
Tu parles de point de rupture à la mort de ton père. Pourquoi ? Pourquoi ce départ a amorcé ta transition intérieure ?
Déjà, J'étais particulièrement proche de mon père parce que mes parents divorçaient quand j'avais 11 ans et mon frère et moi, on a été élevés par mon père. Donc du coup, j'ai développé un lien qui est beaucoup plus fort avec mon père. Et ensuite, il y a eu beaucoup de souffrance quand ma mère est partie de la part de mon père qui a sombré dans la dépression, l'alcoolisme. Et j'ai toujours voulu être là pour le soutenir. Donc j'étais un peu comme un pilier dans sa vie, sans qu'il me demande quoi que ce soit. J'ai fait ça inconsciemment. Mais comme lui est devenu vraiment un pilier dans ma vie. Et du coup, quand il meurt, quand j'ai 27, 28 ans, ce pilier autour duquel j'ai construit toute ma vie, de petite fille modèle, parce que je voulais pas être un souci de plus pour mon père, je voulais pas qu'il souffre davantage à cause de moi, donc j'étais un peu voilà la première de la classe, tout faire bien, etc. Quand il disparaît, tout ça s'effondre. En fait, le modèle que j'ai construit autour de lui, inconsciemment évidemment, tout s'effondre. Et là, je me retrouve au milieu des décombres de ma vie et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Cette femme que je suis devenue, avec cette carrière, cette réussite sociale, c'était pas moi. Et donc là, 2 ans de questionnement, 2 ans assez sombres, parce que je ne voulais plus de cette vie-là, mais la question c'est qu'est-ce que je voulais? Et ça m'a amené vers le voyage.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de remettre un peu de sens au centre de nos vies. On se rend bien compte qu'on vit dans une forme d'illusion totale. Qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui ont envie d'amorcer aussi leur transition intérieure ?
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui sont en quête de sens. On se rend compte de l'absurdité de la vie, surtout du monde, je dirais, plus que de la vie du monde. Parce que on voit bien que c'est mal barré pour les années qui viennent. Et même si par exemple, on vient de traverser le Covid, on se dit oui, prise de conscience. Et en fait, on se rend compte que c'était bien quelques mois, quelques semaines peut-être. Mais les gens reviennent très vite à leurs habitudes de consommation, etc. Et en fait, moi, le conseil que je peux donner justement pour ces personnes qui recherchent un sens à la vie, à leur vie, et au monde, c'est déjà renouer avec l'émerveillement. Enfin, je le vois quand je voyage, et je pense que c'est aussi pour ça que je voyage, c'est que c'est un instant, l'émerveillement. Ça peut être un crépuscule, ça peut être se retrouver au sommet d'une montagne avec cette impression d'être seul au monde. Ça peut être être au milieu de la forêt, tout d'un coup, un animal sauvage qui vient se pointer et ce contact visuel qui va durer un millième de seconde. Et pour moi, l'émerveillement permet de redevenir enfant et quelque part de retrouver de la beauté dans la vie et dans le monde. Et ça, il faut vraiment... c'est quelque chose de tout simple, mais peut-être aussi très dur, parce qu'il faut oser sortir de son quotidien, de son cadre, pour revenir vers ça, et du conditionnement, parce qu'on est, conditionné, on est très 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 conditionné.
C'est vrai qu'en voyage, on est un peu comme un enfant, on réapprend tout, on réapprend des couleurs, des odeurs, des saveurs, une langue aussi. Cette notion d'émerveillement est beaucoup plus facile quand on est plongé dans un contexte culturel différent du sien. On apprécie une batucada en trame de fond derrière. J'espère qu'auditeur t'entendra quand même un petit peu cet échange. Cette notion d'émerveillement, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus facile, ou en tout cas j'ai l'impression pour moi, de toucher cet émerveillement quand tu te retrouves dans un contexte culturel différent. Et comment tu fais toi à tes retours? Est-ce qu'un retour appelle un nouveau départ?
Ça c'est la question. Je pense que tous les voyageurs connaissent un peu cette dualité. Je reste, je pars, est-ce que je pars pour fuir ou pour me trouver? Pour fuir une réalité, enfin moi je me suis posé souvent la question. Le fait est que quand bien même ce serait une fuite, à un moment on trouve quelque chose en soi, donc il y a pas vraiment. Je pense que c'est les deux revers, les deux faces d'une même pièce, quoi. Le se trouver et en même temps fuir quelque chose qui nous déplaît. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en voyage, effectivement, c'est beaucoup plus facile de s'émerveiller, de s'ouvrir. Les gens nous tendent la main. Il y a une magie, il y a une vraie magie du voyage pour moi. Et en fait, à force de voyager, je me suis rendu compte que ces mécanismes d'émerveillement, de la magie, de l'ouverture aussi, je pouvais les réinjecter dans mon quotidien. Et y compris, là tout à l'heure, ce dont on parlait, moi je vis actuellement dans un petit appartement à Paris, donc dans la ville assez stressante de notre pays, mais en fait cet espace, c'est comme mon temple. C'est mon temple où voilà, j'ai mes petits objets de voyage. En plus, j'ai développé des outils, des pratiques comme la méditation, le yoga. Et finalement, l'exploration que je retrouve en voyage, ben, je la retrouve y compris dans l'immobilité, parce que j'ai développé des sortes d'automatismes intérieurs, grâce au voyage, acquérir des outils intérieurs. Et c'est là que je me suis rendu compte que, certes, il y a une richesse extérieure, et ça, c'est incontestable, une beauté extérieure, mais elle est autant dehors qu'à l'intérieur. Et elle est avant tout à l'intérieur. Et parce qu'elle est à l'intérieur, elle peut être à l'extérieur. Donc voilà comment je fais.
Et comment fais-tu pour trouver tes destinations ? Comment tu choisis tes voyages ?
Très souvent, c'est des intuitions. Enfin, je dirais même systématiquement, c'est pas quelque chose de rationnel. C'est un moment, une carte que je vais regarder et je sens qu'il y a une région qui va m'appeler. Donc, c'est vraiment ce cerveau du ventre qui se met en route, le chakra, le deuxième chakra pour ceux qui connaissent ça, quoi. Là où il y a le désir, hein, l'énergie qui est liée à l'énergie sexuelle, l'énergie de la création, mais du coup, c'est l'énergie du désir. Le désir en fait, et je sens que ça se passe au niveau du ventre. Je sens que par exemple le Kamchatka, donc l'extrême-orient de la Sibérie, mon tout premier voyage, ça a été ça. Devant une carte, j'ai senti que cette région m'appelait. J'y suis allée et je me suis pas trompée, parce que ça a été juste un voyage extraordinaire, fabuleux. Et tout le reste, à chaque fois, ça a été ça. Ça peut être aussi un livre que je lis, quelques phrases qui tout d'un coup vont faire écho. Je sens que ça va chercher quelque chose de profond en moi, peut-être d'ancienne mémoire, d'ancienne vie, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose de très instinctif dans mes choix.
Tu parles du premier voyage, le Kamchatka, donc quels ont été les suivants ?
Alors après le Kamchatka, donc je suis partie en Alaska, j'y suis restée un été, après j'ai voulu y retourner un hiver pour expérimenter le moins 40, moins 50, voire plus, enfin voire moins.
Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Est-ce que tu sais que tu vas écrire, ou c'est vraiment pour vivre cette immersion dans un peuple, une culture différente ? Quelle est l'idée au départ, avant chaque départ ?
L'idée, avant tout, c'est de découvrir. C'est-à-dire que je pars pas avec un projet d'écriture ou de film. Ça peut venir au fur et à mesure. Il y a des voyages, par exemple, j'ai eu toute ma période Himalaya où j'ai passé quasiment un an cumulé aux Anskars avec différentes nonnes bouddhistes. Je suis allée au Tibet aussi, au Kyrgyzstan. J'ai absolument pas écrit sur cette période. Non pas que ça n'a pas été extraordinaire, ça l'a été, mais voilà, j'ai pas eu le désir d'écrire. Après, j'ai une période Moyen-Orient, Israël, Palestine, la Turquie. Je voulais absolument pas écrire sur Israël et finalement, je me souviens encore, je marchais dans les rues de Jérusalem et il y a quelque chose qui sort de message qui m'est tombé. Ça fait très allumé, je sais, mais en disant il faut que t'écrives un livre qui aura pour but d'unifier. Et donc ça a donné naissance à mon avant-dernier livre qui s'appelle Le Chemin des Anges. Et donc voilà, c'est avant tout, donc je voyage parce qu'il y a ce désir, parce qu'il y a quelque chose qui me pousse. Et je sais qu'il y a quelque chose, je ne le sais pas avant, mais il y a quelque chose que je vais découvrir. Et en général, oui, et même, par exemple, j'étais en Turquie, malheureusement, un voyage qui s'est extrêmement mal passé, parce que j'ai failli perdre la vie suite à une agression, en fait, quelqu'un qui a essayé de me violer et qui m'a étranglé plusieurs fois. Et par miracle, je m'en suis sortie. Ça a été très compliqué, hein, ce voyage, parce qu'après, c'est quand je suis rentrée, bon, il y a eu évidemment le traumatisme, mais en fait, la question, c'était pourquoi ? Pourquoi ? Moi, justement, qui me laisse guider par mon intuition, qui voyage avec une ouverture du cœur, avec cette envie de rencontre, en fait, je m'en voulais, la culpabilité, je me suis dit, bah, finalement, je suis trop naïve. Et je me suis dit, waouh, être confrontée à tant de haine, tant d'obscurité chez l'autre, ça m'a fait beaucoup de mal, quoi. Moi qui justement vais vers l'ouverture avec un message d'amour et de bienveillance et de compassion, et là waouh, j'ai dit pourquoi j'ai vécu ça, enfin, en plus du traumatisme physique que j'ai vécu, ça a été des grandes questions existentielles suite à ce voyage. Et d'ailleurs j'ai pu me réconcilier avec moi-même en repartant. Je suis repartie derrière au Chili, où j'ai traversé les Andes de Santiago du Chili jusqu'en Patagonie. Et en fait, c'est la nature qui m'a guérie, la force de la nature.
Est-ce que tu as réussi à transformer cette expérience négative ? Est-ce que tu as trouvé une réponse à ton pourquoi ?
C'est encore un peu flou, parce que c'était il y a seulement 2 ans. Donc ça peut paraître beaucoup, mais pour un trauma, c'est court. Je pense que, enfin c'est même sûr, je le sais, ça m'a ouvert les yeux sur la condition de la femme. Je suis une femme, jusqu'à preuve de contraire. C'est pas que je l'ignorais, mais avant cet événement, ça faisait 7 ans, ouais, quelque chose comme ça, que je voyageais seule. Il m'est jamais rien arrivé, jamais rien de très grave, quoi, à part... Ouais, évidemment des hommes qui cherchent, mais à chaque fois j'ai pu soit m'écarter, mais j'ai jamais été agressée physiquement à ce point-là. Et donc je me suis dit, ouais, effectivement, être une femme dans le monde, et notamment dans certaines parties du monde, c'est pas anodin. Et en fait ça m'a vraiment, voilà, j'ai pris conscience de ce qui pouvait arriver. En tant que femme, j'ai pris conscience de ce qu'était un trauma, une agression sexuelle, les dégâts que ça pouvait laisser en soi. En tant que femme, mais je dirais en tant qu'homme, parce que ça arrive également aux hommes, ça arrive aux enfants aussi, malheureusement. Et du coup, j'ai surtout pris conscience de l'importance du travail de guérison. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de libérer la parole. Effectivement, dire ce qui s'est passé, c'est la première étape, c'est essentiel. Mais après, comment on se relève ? Et moi, voilà, j'ai fait ce travail-là. Je pense que c'est même sûr. La spiritualité m'a beaucoup aidée, le fait d'avoir confiance en la vie et de savoir qu'il y avait un sens à tout ça, même si c'est extrêmement sombre et qu'on n'y croit pas. Ça m'a aidée à me relever. Et le fait de croire en la nature, d'avoir ce rapport à la nature, cette connexion qui pour moi est très forte, que j'ai développée au travers de mes voyages, ça m'a sauvée. La nature m'a sauvée. Et donc ça m'a fait prendre conscience du chemin de guérison et que une des missions, mais je dirais peut-être même la mission entre guillemets qu'on a dans notre vie, c'est avant tout de guérir de nos blessures pour pas les transmettre. Et ça, c'est hyper important.
Est-ce que cette expérience négative a transformé ta manière de voyager ?
Ouais, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je le sais, et ça me fait toujours mal au cœur, hein, je suis plus la même femme qu'avant. J'ai retrouvé la force de revoyager seule. Mais mon rapport aux hommes, clairement, est modifié. Et ça, voilà, là, quand je rencontre, en plus, je voyage seule, je continue de voyager seule. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, avant, voilà, j'avais cette innocence qui faisait que, en général, quand quelqu'un venait vers moi, je savais que c'était pour m'aider, par curiosité. Et là, en fait, je pense à quelque chose de négatif, même si ça m'énerve parce que je sais très bien que j'ai envie de me vider l'esprit de tout ça. Mais en même temps, ça fait partie du trauma. Donc je suis très très vigilante aujourd'hui quand je voyage, ce qui ne m'empêche pas de voyager. Je pense que c'est déjà bien, c'est le principal. Mais je prends mes distances avec les hommes que je rencontre quand je suis seule dans la nature, notamment. Parce qu'en plus, cette expérience ne m'est pas arrivée en ville, mais arrivée dans les montagnes.
On a parlé de comment tu choisis tes voyages, on n'a pas choisi de comment est-ce que tu voyages, donc j'entends parler de vélo, de rando, à pied, donc tu mets la lenteur au centre de tes voyages. Parle-nous un petit peu de ta démarche dans le voyage.
Ouais, la plupart, quasiment la totalité des voyages que j'ai fait, c'était soit à pied, des traversées à pied, soit à vélo, quand c'était vraiment des grandes régions comme le Tibet et encore... Si j'ai passé 3 mois à vélo, je pense que j'avais rien vu du tout. Mais en fait, j'aime cette lenteur, comme tu le dis, et ce rapport au corps. C'est-à-dire que pour moi, la façon dont je voyage aussi, c'est m'ouvrir à l'énergie d'une terre et ressentir la terre, ressentir l'énergie des lieux, la nature, favoriser la rencontre aussi. Clairement, mon moyen de locomotion préféré, c'est la marche. Parce que là, c'est vraiment pas après pas, le souffle. Pour moi, c'est une relation de corps à corps avec la terre. Puis ça permet aussi de passer dans des chemins, dans des sentiers. Alors que même le vélo, on est obligé quand même de rester sur des axes Un peu frais, enfin, on va dire, comment on dit, carrossable, quoi. Parce qu'à vélo, voilà, on ne peut pas passer non plus sur les sentiers de randonnée. Et pour moi, voilà, marche, c'est extraordinaire. Ce rapport dont je parlais tout à l'heure à la nature, c'est une façon pour moi de communiquer avec le monde, avec la terre. Un peu une expérience chamanique, je dirais, cette façon d'être en lien avec les esprits de la terre.
Et qu'est-ce qui fait que tu choisis de voyager seule ?
Alors au départ, donc quand j'ai commencé à voyager il y a 10 ans, pour moi c'était une évidence. Je venais de tout quitter et voyager seule, c'était une évidence parce que je voulais me retrouver à cette époque-là. Je vivais le deuil de mon père. Je venais de me rendre compte que je m'étais complètement plantée dans mon chemin de vie. Et donc voyager seule, je me suis même pas trop posé la question, quoi. C'était évident. Déjà me retrouver dans la nature aussi, et puis finalement, bon, après je me suis rendu compte qu'en voyageant seul, on est très rarement seul je me suis rendu compte que voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu avec ces nomades en Sibérie, et en fait, j'aime voyager seul pour ça, parce que quand je parlais de l'exploration de soi, il n'y a qu'en étant seul qu'on peut aller aussi profondément en soi. Parce que ne serait-ce qu'à deux, on est diverti, on va faire attention à l'autre. Forcément, en fait, on veille l'un sur l'autre, donc c'est différent. On prend les décisions à deux, on peut être aussi dans un compromis. Et tout à l'heure, on parlait de l'intuition. Comment écouter vraiment cette voix de l'intuition, comment l'entendre? Eh bien, c'est dans le silence à l'intérieur de soi, et ça, une fois encore, c'est un travail de solitaire. Ce qui ne veut pas dire que je me sens seule en voyage, c'est deux choses complètement différentes.
Cette notion d'introspection, de développement personnel, d'écologie intérieure, de spiritualité, ça a toujours été présent même dans tes premiers voyages, ou est-ce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans ton parcours?
En fait, ça a été présent malgré moi dès le premier voyage. Parce que je pense, de toute façon, j'ai toujours été passionnée de spiritualité depuis que je suis petite. Le monde de l'invisible, j'y ai toujours cru. Les anges, les présences, etc. Ça a toujours été une constante que j'ai complètement oubliée, justement, quand j'étais dans cette carrière militaire où je me suis un peu perdue, un peu enterrée, en fait. et en fait... Déjà, quand je voyage en Sibérie, je me retrouve à vivre avec ces nomades éleveurs de rennes qui sont de tradition chamanique. Donc, on parle déjà de leur tradition, des esprits, de leur croyance en les esprits de la nature. Après, quand je me retrouve en Alaska, entre guillemets, comme par hasard, je me retrouve à vivre avec un ancien, avec un Aléout, qui est un peuple de l'Alaska, qui est sage, qui est messager de son peuple, où finalement... On passe tout notre temps à parler de spiritualité, du rapport à la vie, du rapport à la mort, etc. Mais en fait, au départ, je partais quand même plus... Il y avait ce côté aventure, ce côté action. Et puis malgré moi, ça m'a rattrapée. Parce qu'après, il y a eu l'Himalaya, les non-bouddhistes, ma découverte du bouddhisme, de la méditation, des visions aussi qui m'ont guidée à travers mes voyages. C'est ce qui m'a amenée notamment en Israël. Alors que j'imaginais absolument pas voyager dans ce pays qui est hyper controversé, et pour autant, dans ce tout petit pays, grâce à la marche, je suis allée au-delà des préjugés, au-delà de ce conflit qu'ils connaissent depuis des millénaires, et en fait j'ai pu découvrir une énergie spirituelle qui est exceptionnelle, extrêmement puissante, notamment dans le désert, et aujourd'hui, oui, je l'assume, parce qu'aussi, quand j'ai commencé à voyager, on parlait pas trop de ça, la spiritualité, ou alors vraiment dans des milieux très restreints. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Dire, par exemple, que je crois en Dieu, y a beaucoup de gens qui fuient encore en courant, parce qu'il y a la religion qui a fait beaucoup de mal aussi. On confond religion et spiritualité. Mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Et je pense que, tu vois, en parler de cette quête de sens... Eh bien, c'est une des réponses, c'est ça, c'est de retrouver, de reprendre conscience que on est en lien permanence avec l'invisible. Ce serait totalement, finalement, égocentré, un peu anthropocentré de croire qu'on est juste des humains, des êtres humains sur cette terre, et point. Non. Moi, je ne crois pas en ça. La vie est belle.
Linda, merci à toi.
Merci beaucoup, Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.